Constantino Moretti va rester là, puisque Jean-Pierre Drège, qui devait faire la dernière communication, ne peut pas être présent aujourd'hui, a envoyé son texte, que M. Moretti a bien voulu se charger de lire. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je présente Jean-Pierre Drège, directeur d'études à l'école pratique. C'est le grand spécialiste de l'écrit en Chine, sous toutes ses formes, sous toutes ses, depuis les bibliothèques jusqu'à la codicologie, en passant par... tous les systèmes d'écriture, les calligraphies, etc. Et aussi au moyen d'échange des textes, puisque sa communication va porter sur la correspondance de Xuan Zhang entre, effectivement, on a des attestations de lettres échangées entre l'Inde et la Chine par Xuan Zhang et ses correspondants indiens.
Merci, Étienne. Now I switch to French. Je m'excuse par auparavant, hein, je ne lirai pas aussi bien que M. Drège, mais... Donc, on va parler de la correspondance du pèlerin Xuan Zhang. La biographie du pèlerin et traducteur Xuan Zhang, écrite par deux de ses disciples, les moines Hui Li et Yan Song, contient un certain nombre de lettres que le célèbre moine a adressées ou reçues. Cette biographie est bien connue, du moins la première partie, due à Hui Li, qui relate la jeunesse de ce grand moine et son long voyage en Inde. La seconde l'est beaucoup moins, plus rébarbative et truffée de pièces littéraires, rapports, lettres et préfaces. Elle concerne la vie de traducteur de Xuan Zhang et consigne ses rapports avec les autorités impériales et plus particulièrement ses échanges avec les empereurs Taizong puis Gaozong. C'est dans cette seconde partie, due à Yan Song, que figurent la plupart des lettres écrites par ou envoyées à Xuan Zhang. La biographie de Xuan Zhang comprend une cinquantaine de lettres, la plupart sont citées in extenso. Les courriers échangés dans un cadre officiel ont été édités en partie par la suite dans le vaste corpus du Chuan Tangwen, l'intégrale des œuvres en prose de la dynastie Tang, entre 1808 et 1814. De plus, bon nombre de lettres mémoires adressées à l'empereur ont été copiées et réunies dans un ensemble intitulé « Lettres officielles de Xuan Zhang, maître de la loi des trois corbeilles sous les grands Tang », recueil figurant dans un manuscrit ancien conservé à Kyoto. On s'attachera ici particulièrement aux lettres rapportées dans la biographie de Xuan Zhang, c'est-à-dire en gros deux types de lettres, les lettres échangées avec l'empereur et les autres. Commençons par examiner les autres moins nombreuses. On y trouve d'abord un échange entre Xuan Zhang et le roi de Gaochang, Chu Wentai, en 630. La première lettre citée par un extrait seulement est celle qu'adresse le roi de Gaochang au Yabgu Kagan, n'est-ce pas, des Turcs, pour recommander Xuan Zhang qui va passer par son territoire en se rendant en Inde. À plusieurs reprises, le roi a essayé de convaincre Xuan Zhang de demeurer dans son pays tant qu'il en est en admiration devant lui. Si l'on comprend que le rayonnement de Xuan Zhang ait subjugué le roi lors de son séjour à Gaochang, Turfan, le texte de la biographie ne nous explique pas comment le roi a pu, dès le début, être prévenu qu'un être aussi extraordinaire allait se rendre dans ce pays. Une autre lettre, figurant dans le chapitre 4, alors que Xuan Zhang était à Nalanda, n'est pas de Xuan Zhang ou adressée à lui, mais il en est le sujet. Elle est écrite par Shiladitya, soleil de vertu, souverain de Kanyakubja, c'est-à-dire Harsha, au vénérable Shilabhadra, l'un des grands maîtres du Yogacara, auprès de qui Xuan Zhang s'instruisit. C'est une demande d'envoi de quatre experts dans le royaume du Dra, où le roi était alors en résidence temporaire afin de participer à un débat sur la validité des enseignements du grand véhicule. Peu après, le roi adresse une autre lettre pour demander que les experts ne viennent pas tout de suite en raison d'une campagne militaire. Au cours de cette période d'attente, Xuan Zhang compose un traité pour réfuter les vues mauvaises afin de contraire les théories exposées par les tenants du petit véhicule. Les idées développées par Xuan Zhang parviennent aux oreilles du roi de Kamarupa, actuel Assam, Kumara, appellation de Bashkaravarman. Celui-ci demande, alors lui aussi par lettre, la venue de Xuan Zhang. Shilabhadra fait répondre que Xuan Zhang s'apprête à s'en retourner chez lui et qu'il n'a pas le temps. Le roi renouvelle sa demande et dans une troisième lettre tout à fait désagréable menace de réduire Nalanda en poussière. Xuan Zhang se résout à partir pour Kamarupa, où il est accueilli avec empressement. Entre-temps, Shiladitya est revenu de son expédition militaire et s'étonne que Xuan Zhang ait cédé à une autre invitation que la sienne. Ils menacent Kumara et se rendent à Kanyakubja avec ses troupes. Après une entrevue entre les deux rois, le conflit se désamorce et l'atmosphère se détend grâce au rayonnement de Xuanzang. Trois autres lettres échangées directement cette fois entre Xuanzang et des correspondants indiens sont transcrites dans la biographie du grand moine au chapitre 7. Nous sommes maintenant en 652. Xuanzang est au plus haut de sa gloire. Il est installé au monastère de la grande bienfaisance de Chang'an. Il reçoit la protection de l'empereur Gaozong. Le 23e jour du 5e mois, deux moines du monastère de la Mahabodhi à Bodh Gaya, Jnanaprabha et Prajnadeva, adressent une lettre à Xuanzang. Si l'on se fie à ce qui en est traduit et transcrit dans la biographie de Xuanzang, la lettre semble avoir été écrite par Jnanaprabha, principal disciple de Shilabhadra. Xuanzang l'avait approché lors de son séjour à Nalanda et il faisait partie des quatre experts que Shilabhadra comptait envoyer pour débattre auprès du roi Harsha. La lettre, qui est assortie d'un cadeau d'une pièce de coton blanc, fait état des salutations adressées par Prajnadeva. Enfin, Xuanzang est invité à demander les textes qui lui manqueraient. Ce n'est que près de 2 ans plus tard, en 654, que Xuanzang répond à ses deux confrères par deux lettres, ce qui laisse croire qu'il y avait à l'origine deux lettres distinctes et non une seule. Xuanzang soumet à l'approbation de l'empereur sa lettre à Jnanaprabha et peut-être celle qui est adressée à Prajnadeva. La biographie ne le précise pas. Xuanzang évoque la mémoire de son professeur, Shilabhadra, qui lui a beaucoup enseigné. Il indique aussi qu'il a perdu une partie de ses livres lors de son voyage de retour et fournit une liste de ses textes en espérant qu'ils pourront lui être envoyés. La seconde lettre est adressée à Prajnadeva, qui a participé à l'assemblée de Kanyakubja, au cours de laquelle Xuanzang triompha en révélant à tous son traité pour réfuter les vues mauvaises. Xuanzang lui témoigne sa grande considération pour l'étendue de ses connaissances, lui rappelle qu'ils ont été des adversaires loyaux et éclairés lors du débat au cours duquel Xuanzang l'emporta, mais lui rapproche d'avoir persévéré dans l'erreur en soutenant les positions du petit véhicule. Il achève sa lettre en lui communiquant séparément à lui également une liste des ouvrages qu'il a perdus en revenant de Chine. On ne dispose pas de cette liste ni de la suite qui y fut donnée. Il n'y a pas d'autres lettres intégrées à la biographie de Xuanzang concernant son voyage, à l'exception de celle que Xuanzang a fait porter à Chang'an depuis Khotan par un serviteur en 644. Cette lettre a pour destinataire l'empereur Taizong lui-même, auquel Xuanzang s'adresse directement, sans doute fort de la notoriété qu'il s'est acquise en Inde. Il s'excuse d'avoir quitté la Chine sans laisser passer, au mépris des règles, mais fait valoir tout le profit qu'il apporte en revanche à l'Empire, en ayant vanté en Inde le prestige de l'empereur. C'est un plaidoyer pro-domo auquel il se livre, en espérant en bénéficier de la clémence impériale, et plus encore être reçu avec honneur, puisqu'il exprime sa hâte à se rendre en audience auprès de sa majesté. 7 ou 8 mois plus tard, une lettre d'écrit est rapportée de Chang'an qui exprime le souhait de l'empereur de voir celui qui va devenir un héros. Sans que l'on sache bien le crédit que Taizong portait réellement à Xuanzang, cette lettre est dans la biographie du pèlerin la première d'une série qui illustre les rapports relativement étroits entre le maître et l'empereur. Toutes les autres lettres, assez nombreuses, sont des lettres officielles échangées avec l'empereur ou ses représentants. Presque toutes concernent les travaux de traduction effectués par Xuanzang ou bien le déroulement de sa carrière monastique, voire de sa santé. Il reste un petit nombre de lettres qui font exception, nous en parlerons à la fin. Il faut d'abord remarquer que les lettres que Xuanzang adresse à l'empereur, d'abord Taizong puis Gaozong, sont des lettres officielles, comme on l'a déjà dit, et par conséquent, elles adoptent une disposition et un style rigoureux. Ce sont des biao, c'est-à-dire des mémoires soumis au trône, et les réponses de l'empereur ont le statut de décret exprimant une décision impériale, c'est-à-dire des che. La première lettre a pour but de présenter à l'empereur les premières traductions de Xuanzang, à savoir 5 ouvrages en 58 rouleaux. La deuxième lettre, qui suit de très près la première, au 7e mois de 646, présente son mémoire sur les contrées occidentales que l'empereur lui avait demandé de rédiger à son retour. Dans chacune des 2 lettres, Xuanzang demande à l'empereur d'écrire une préface, donc à la fois à ses traductions et à son mémoire. Sans réponse de l'empereur sur ce point, Xuanzang réitère immédiatement sa demande de préface. Celle-ci, qui concerne ses traductions, ne sera écrite et publiée que 2 ans plus tard, en 648. Entre-temps, la position de l'empereur a changé. Il était jusque-là, sinon hostile, du moins défavorable au bouddhisme, comme l'a bien vu Stanley Weinstein. Et non seulement le taoïsme avait obtenu la prééminence sur le bouddhisme dans toutes les cérémonies, mais les moines étaient traités comme des simples laïcs. Le respect que Taizong avait pour Xuanzang se limitait à ses connaissances de l'Asie centrale et de l'Inde, et à l'action qu'il pourrait avoir comme conseiller ou expert. C'est pourquoi il ne répond pas aux demandes de Xuanzang d'écrire une préface. En 647, on sait par d'autres sources que la biographie de Xuanzang que l'empereur demanda aux moines de traduire en sanskrit le livre de la voie et de la vertu, Dao De Jing, pour l'envoyer au roi Bashkaravarman. À Kamarupa, à la suite d'une mission diplomatique de Wang Xuanzi. Il a demandé également à Xuanzang de traduire la lettre que l'empereur adressait à Archa. C'est seulement l'année suivante que la situation change. Coup sur coup, l'empereur exauce le souhait de Xuanzang d'écrire une note sur l'apport de ses traductions et à la connaissance et à la propagation du bouddhisme, puis il fait rédiger un exposé sur les saintes notes par le prince héritier. Xuanzang se confond à un remerciement. Il demandera à plusieurs reprises par écrit que ses traductions soient diffusées. Les rencontres de Xuanzang et de Taizong deviennent plus nombreuses. Taizong s'informant ardemment des idées développées dans plusieurs ouvrages bouddhiques, l'intérêt que porte maintenant l'empereur à Xuanzang s'est traduit par le don d'une robe monastique et d'un rasoir, ce qui donne l'occasion d'un échange de lettres. À la suite de l'encouragement impérial donné à Xuanzang de poursuivre ses travaux de traduction, une nouvelle demande est faite aux moines pour prendre en charge la gestion du monastère de la Grande Bienfaisance, Tatsu Hensu. Demande que refuse le grand traducteur. À ces manifestations empressées de l'empereur s'ajoute celle du prince héritier qui monte bientôt sur le trône au décès de Taizong en 649. L'engouement pour Xuanzang est partagé par les princes et les ministres. Plusieurs fonctionnaires importants lui demandent de recevoir les pratiques des bodhisattvas, un ensemble de préceptes que peuvent suivre les laïcs aussi bien que les moines et les nonnes. Deux événements qui se traduisent par des célébrations officielles sont l'occasion d'échanges épistolaires entre Xuanzang et le nouvel empereur ou son représentant. C'est d'abord la construction d'un grand stupa dont Xuanzang a sollicité la construction à Chang'an, dans le monastère de la Grande Bienfaisance, pour y déposer les ouvrages bouddhiques qu'il avait rapportés et les traductions qu'il venait de faire. Le stupa n'est pas aussi grand que Xuanzang l'avait souhaité, mais il est bel et bien bâti. L'autre échange porte sur l'inscription que l'empereur rédigea pour le monastère de la Grande Bienfaisance en 656. Et sur 5 jours successifs, du 3e mois, du 9 au 13, plusieurs lettres sont écrites. D'abord un courrier accompagnant l'inscription que l'empereur vient de rédiger, puis une lettre de remerciement de Xuanzang, et le lendemain, une nouvelle lettre qui exprime le souhait que cette inscription soit calligraphiée de la main impériale avant d'être gravée sur pierre. Ensuite, une nouvelle demande de Xuanzang qui insiste pour obtenir cette faveur après avoir obtenu un refus. Et enfin, une lettre de remerciement de Xuanzang pour l'acceptation de sa demande. Une 6e lettre suit au 4e mois pour accuser réception de l'inscription. Au cours de cette même année 456 et de l'année suivante, 7 lettres ont été conservées qui concernent la naissance et la petite enfance du prince Li Xian, fils de l'impératrice Wu Zetian, c'est-à-dire le futur empereur Zhongzong. Xuanzang commença par adresser une lettre de félicitations à l'impératrice enceinte, ainsi qu'une lettre à l'empereur pour l'informer qu'il avait vu un oiseau rouge s'approchant de la tente impériale, un signe faste qui annonçait vraisemblablement la naissance d'un garçon. Xuanzang ayant reçu un faire-part de naissance, 2 lettres de félicitations sont adressées à l'empereur et à l'impératrice. Âgé d'un mois, le prince, qui a reçu le nom bouddhique de lumière du Bouddha, reçoit la tonsure et à cette occasion, Xuanzang adresse encore une lettre à l'empereur ainsi qu'une lettre au petit prince et lui fait cadeau d'une robe religieuse. Xuanzang a renoncé à toute situation qui lui conférait une position politique. S'il assure un rôle mondain, il consacre la majeure partie de son temps à la traduction. Il en rend compte régulièrement à l'empereur qui assure le financement de ce travail d'équipe. Cela de 648, comme on l'a vu avec la demande de rédiger une préface. En 657, alors que l'empereur Gaozong lui demande de bien vouloir traduire en priorité les textes qui n'ont encore jamais été traduit en chinois, plutôt que de rétraduire des textes qui l'ont déjà été partiellement. Xuanzang justifie ses choix dans une lettre et indique notamment que la grande exégèse de l'Abhidharma, Pipo Shalun, en 200 chapitres, a déjà été traduit à moitié, mais très mal, par Bouddha Varman, avec beaucoup d'erreurs, et que lui-même en a déjà traduit 70 chapitres, et demande de pouvoir achever les 130 restants en raison de l'importance de cet ouvrage. Cette demande est acceptée. Les travaux de traduction de Xuanzang sont vantés, mais quelques années plus tôt, en 655, est survenue une controverse. Celle-ci vient à la suite de la traduction par Xuanzang d'un traité de logique qui est montré à l'un des médecins de l'empereur, Lü Zai, qui est également musicien, astronome et apte à saisir les dissertations les plus absconses. C'est pour celui-ci l'occasion de rédiger une critique intitulée Commentaire de la logique exprimée sous forme de tableau des idées, de propositions et de la réfutation, dont il ne subsiste malheureusement que la préface. Indirectement, Xuanzang s'y voit attaqué, non comme auteur, mais comme interprète d'opinions considérées comme erronées. Hein, plusieurs lettres sont alors écrites pour défendre les traductions de Xuanzang, d'abord par son biographe, Hui Li, puis par d'autres, des lettres qui sont reproduites dans la biographie du maître. La controverse est portée à la connaissance de l'empereur qui propose un débat entre Xuanzang et Lü Zai, mais ces derniers finalement reculent. Il reste encore un ensemble de lettres qui se rapportent à une question non plus philosophique mais directement politique, c'est celle de la prééminence du bouddhisme sur le taoïsme. On sait qu'un édit proclamé en 637 avait accordé la préséance du taoïsme sur le bouddhisme lors des cérémonies officielles et que les protestations des hauts membres du clergé bouddhique avaient été vaines. Taizong n'avait apparemment guère d'inclination pour le bouddhisme, si ce n'est à l'approche de sa disparition, grâce en particulier à Xuanzang. Avec Gaozong, son successeur, Xuanzang maintient des contacts étroits et il n'hésite pas à lui faire passer un mot, attaché à une lettre de quelqu'un d'autre, pour revenir sur la question de la prééminence du bouddhisme et du taoïsme et sur la position respective des religieux et des laïcs devant la justice. Dans sa réponse, l'empereur admet que la situation doit être réévaluée et que, en ce qui concerne le second point, le décret doit être abrogé. Un édit est pris en ce sens et Xuanzang, par deux fois, se confond en remerciement. On peut voir, en examinant les lettres conservées dans la biographie de Xuanzang, qu'elles se limitent à un choix de lettres relatives à des échanges avec l'empereur ou ses représentants. Ils font exception les lettres à Shilabhadra et autres, et encore, sont-elles placées sous la supervision de l'empereur. Elles portent sur des sujets publics, tels que les travaux de traduction, la diffusion du bouddhisme et la préséance de cette religion, c'est-à-dire que citées, résumées ou reproduites dans l'œuvre biographique du maître, elles viennent contribuer à en valoriser l'image. Peu de lettres ont un caractère personnel, on connaît surtout celles qu'écrit Xuanzang pour remercier l'empereur Gaozong de se préoccuper de sa santé déclinante en 657. Gaozong fit envoyer à Xuanzang un médecin du palais pour le soigner, mais dans sa lettre, Xuanzang sollicite aussi l'empereur de le pardonner d'être sorti du palais sans autorisation pour se réfugier dans son monastère à cause de la maladie. À travers un échange apparemment plus intime, cette lettre participe en fait de la construction hagiographique du personnage de Xuanzang. Et je vous remercie pour votre attention.